16h06 à Boulevard 102.1. On est ensemble jusqu'à 18h. Je m'appelle Audrey Pinchot, accompagnée d'Antonine Iacarini, Véronique Bergeron autour de la table également. Présentement à l'extérieur, 29 degrés. On ressent 34. Et il y a des possibilités d'averses ce soir. On est autour de 40 % de possibilités d'averses avec un 20 degrés. C'est encore bleu dehors, mais on voit que ça commence à se couvrir d'une petite couche de brumeux. Le ciel est bas, c'est ça qu'ils disent, hein? Le ciel est bas. Demain, on est à 40 % de possibilités d'averses en journée avec un 27 degrés. Ça va se dégager en soirée autour de 18. On risque d'avoir une belle soirée pour le début du Festival d'été de Québec. Vendredi, 25 ensoleillé, samedi, 27 ensoleillé et dimanche, 28 ensoleillé. Donc, un super beau week-end à venir. Des complications sur les routes, 88-971-1021. J'en ai quelques-unes pour vous autres, malheureusement. On va commencer par route de Fossambeau. Si vous êtes entre Des Érables et de la Jacques-Cartier en ce moment, il y a un ralentissement qui est quand même assez habituel. Devant la base militaire également, route de la Bravoure dans les deux directions, dans le coin de Shannon. Hauteur avenue industrielle dans le coin de Val-Bélair, léger ralentissement à prévoir également. Si vous êtes sur la capitale, direction est, ça se passe entre Henri IV et Laurentienne au moment où on se parle, direction ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne. Robert Bourassa, direction nord, il y a des problèmes entre Wilfrid Hamel et la capitale. Semble d'ailleurs y avoir un accident ou un incident. Toujours direction nord, un peu après Charest, là, peut-être que vous allez le sentir. Si vous êtes sur Charest, direction est, hauteur Robert Bourassa, c'est difficile aussi. Henri IV Sud de Wilfrid Hamel au pont, c'est au rouge. Si vous êtes sur Duplessis Sud de Charest au pont La Porte, toujours difficile. Et pour ce qui est de la rive sud, ben ça bouge pas. C'est toujours la 20 direction ouest entre la route du président Kennedy et Taniata. Il y a plusieurs travaux depuis plusieurs semaines, vous allez le sentir. Des problèmes sur chemin des îles entre Guillaume Couture et la 20. Des gens qui essaient de trouver peut-être une alternative. Par contre, sur Guillaume Couture, dû à des travaux aussi, disons qu'entre Chemin des Îles et Taniata, c'est pas plus facile. Un peu plus haut dans les deux directions, toujours sur Guillaume Couture, entre Monseigneur Bourget et la route du président Kennedy, au ralenti également. Évidemment, s'il y a autre chose, 88-971-1021 texto. Véro, je sais que tu as peut-être une petite mise à jour là, en ce qui concerne les problèmes de circulation là, dans le coin de Saint-Roch, le bris d'aqueduc.
Oui, c'est un secteur qui est encore à éviter, c'est que vers 13h30 cet après-midi, un bris d'aqueduc a forcé la fermeture du boulevard Charest dans les deux directions entre la rue de la Couronne et le boulevard Jean-Lesage. Donc, au moment où on se parle, tout ce qui converge vers là est au rouge très foncé. Il y a des policiers qui font la circulation dans le secteur. On est en train de réparer le bris qui, lui, est survenu dans le cadre de travaux pour la réfection d'une borne fontaine. Puis on estime qu'on devrait être en mesure de rouvrir le tout à la circulation aux environs 17 heures. Donc encore un bon, presque une heure devant vous. Puis tu regardes les rues tout autour de ça là, actuellement. Là, c'est très compliqué parce qu'on envoie les gens partout autour. Puis c'est pas des rues qui sont habituées de prendre un flot de circulation aussi important. Ouais. D'habitude, le boulevard Charest suffit pour ça. Sinon, dans l'actualité, on est en pré-campagne électorale. Vous savez très, très bien. Je vous ai parlé un petit peu plus tôt de la première ministre Christine Fréchette qui demain se retrouvera du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Il y aura entre autres une annonce de candidature dans le secteur de Rouyn-Noranda, une annonce en matière de santé du côté d'Amos, mais plutôt aujourd'hui. T'sais, on y va beaucoup en rafale. Une fois de temps en temps, on présente une candidature qu'on estime comme étant une candidature peut-être un petit peu plus sûre pour la CAQ. Puis après ça, on nous envoie un communiqué en nous disant « Voici quatre candidats en annoncés. » Ouais, en passant.
C'est plate quand t'es dans cette vague-là de « en passant », c'est un peu poche.
Mais en même temps, moi, je salue ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à se présenter.
Absolument.
Dans des circonscriptions qui ne sont pas sûrs.
Absolument.
C'est des vrais troopers, là.
Bravo. C'est sûr.
Puis là, aujourd'hui, ça a été des candidats dans les circonscriptions de Jacques-Cartier, de Sainte-Marie-Saint-Jacques, de Westmount-Saint-Louis et dans Lapinière. Il y a le Parti libéral aussi qui va avoir des annonces demain, mais ce sera dans la grande région de Québec. On aura une candidature dans la circonscription de Lévis, une autre dans la circonscription de Jean-Lesage. Le Parti libéral n'a pas de député dans la région de Québec, en a pas eu depuis... qui était là?
Bien, il y a eu André Drolet pendant quelques années. Il y a eu le député de Vanier, Patrick Huot.
Mais ça fait longtemps, là!
En fait, Véro, depuis 2018, il n'y a pas de député libéral à l'est de Laval.
C'est fou, là! C'est vraiment fou!
Il y en a en Outaouais. Non, même pas. Il n'y en a plus en Outaouais. Oui, il y a André Fortin dans Pontiac, mais c'est Laval, Montréal et l'Outaouais.
Fait que là, ce sera intéressant de voir comment on va essayer d'attirer l'attention avec ces candidatures-là. Il y a beaucoup de cœurs à prendre et de votes à prendre, devrais-je dire, partout au Québec, puis entre autres aussi dans la région de Québec. En terminant, c'est un texte de TVA, puis c'est quelque chose que plusieurs avaient remarqué. Tu sais, les laissés-passer du Festival d'été de Québec, comme à l'habitude, sont partis en l'espace de quelques minutes. Puis, on le sait, depuis quelques années, il y en a qui le font parce qu'ils vont assister à bien des spectacles, parce que c'est des tripes de musique, de festivals, d'événements. Et t'en as qui le font parce qu'ils se disent « ben je vais faire la pièce, je vais les revendre ou encore je vais revendre certains soirs puis je vais rentrer dans mon argent puis ça va payer mon festival. » Semble-t-il que cette année, ceux qui pensaient se faire payer leur festival par des gens qui allaient racheter les passes, c'est beaucoup plus difficile qu'à l'habitude.
Je trouve ça tellement satisfaisant d'entendre ça. Là.
On se doutait qu'à un moment donné, il y aurait un retour de balancier. Les causes comme telles, ça peut être multiple. Il y a des gens pour qui la programmation cette année, c'est moins « wow ». C'est des artistes qui ont déjà eu l'opportunité de voir dans la région de Québec. Il y a l'accessibilité au FEC aussi, qui, géographiquement parlant, là, par les transports, il y a bien des personnes qui ont comme fait hey, « moi, cette année, ça va être compliqué. D'habitude, c'était ma semaine de vacances. Là, juste me déplacer, ça va me gruger des heures. Je vais peut-être faire autre chose vu que c'est moins à mon goût. » Mais c'est des prix qui sont en baisse, des disponibilités qui sont très élevées alors que le festival va commencer demain. Moi, j'ai une amie qui ne demeure pas dans la région de Québec. Elle a des passes dans la zone signature, c'est les estrades. Puis habituellement, quand elle ne peut pas y aller, elle les offre à son entourage. Ou encore, elle tente de vendre celles qui lui restent. Et elle dit que cette année, c'est très difficile. Tu sais, d'habitude, tu les mets en ligne et ça part immédiatement.
Direct.
Et là, pour bien des concerts, c'est plus tough. Puis dans les revendeurs qui, de manière anonyme, ont parlé à TVA, les plus demandés, Muse, Martin Garrix, Lumineers, Jelly Roll. Pour les autres, genre Michael Bublé, plus tranquille.
Mais tu vois ça, j'avais hâte de voir parce que en aréna, mettons, là, généralement, ça se passe quand même bien, Michael Bublé.
C'est normal, c'est une ambiance d'aréna.
Mais c'est ça.
Tu sais, Michael Bublé, pour moi, pour ceux qui aiment ce genre-là, c'est plus feu de foyer, soirée romantique que des plaines d'Abraham.
Effectivement.
Ça fait un petit peu moins festival, effectivement.
Je te parle à même place. Puis je pensais, moi, que les Kesha, Gwen Stefani allaient peut-être attirer plus que ça. Puis finalement, effectivement, je ne l'entends pas beaucoup non
tu
plus.
Tu vois, Gwen Stefani serait venue avec No Doubt. J'ai l'impression que ça aurait plus pogné. Pourtant, elle a beaucoup plus de succès avec sa carrière solo.
Ouais.
Mais je pense que pour le volet nostalgie...
C'est sûr qu'elle va faire du No Doubt inévitablement.
Moi, je pense pas.
Hey, tu penses pas? Moi, je suis sûre que les grosses tunes, on va les entendre.
Je vais aller fouiller ces sept listes puis je vais te le dire.
Je serais curieuse, honnêtement.
Si tu te pointes là puis qu'elle fait aucun hit de No Doubt, sérieusement, moi, je
les gens vont chialer. C'est sûr que oui.
Moi, je compterais pas là-dessus.
Parce que tu travailles sur ça, la nostalgie en festival.
Mais son groupe existe encore puis ils ont donné des shows dans la sphère qui ont super pogné du côté de Vegas au courant des derniers mois.
Je pense qu'il faut que tu sois conscient de ça. Mais je suis curieuse. Avant les sept listes, c'est vrai, tu vas pouvoir le voir. Tu vois, nous autres, ça fait quand même une couple de fois là, qu'on regarde. Là, y a-tu des billets, mettons, zone argent ou zone or pour certains spectacles qu'on voudrait vraiment voir? Puis effectivement, il y a moyen de magasiner, puis c'est le fun cette année. Là. Ce qui fait du bien, parce que pour vrai, il y a d'autres années où tu payais des genres de 400$ pour être dans zone argent. Ça n'a aucun foutu bon sens.
C'est tellement
soirée,
d'argent.
Là.
Donc, tant mieux s'il y a moyen pour tout le monde de trouver des passes. Il y a quelqu'un qui nous dit...
Génial.
Ouais. Il y a quelqu'un qui nous dit, j'ai vu passer une passe du FEC, 80$ pour tout le FEC sur Marketplace aujourd'hui.
Ça en dit long pareil, là.
Quand même, hein?
Tu sais, moi, les soirs que je n'utiliserai pas avec ma passe régulière, mais probablement la passer à 15$, là, je me dis, s'il y a du monde qui veut en profiter, de toute manière, je ne l'utiliserai pas. Mais je trouve ça le fun qu'on revienne potentiellement à ça, définitivement. Dans les prochaines minutes, on va jaser avec Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, qui en est venue à faire une sortie un peu plus tôt ce matin sur ses réseaux sociaux. Je ne sais pas, Antonine, si tu peux nous rappeler le contexte dans lequel elle a décidé finalement de sortir, mais la question qu'elle pose est vraiment pertinente.
Oui, je pense que ça va faire débat. Puis ça touche le droit, hein, donc c'est sûr qu'on est dans un, j'ai envie de dire, un secteur où c'est pas facile de changer les choses très rapidement. Mais dans les dernières années, il y a un contexte parce que vous savez que cette semaine, c'était l'inauguration, l'annonce du dernier tribunal spécialisé pour les violences sexuelles, violences conjugales. C'est la fin d'un long processus. C'était issu d'un rapport qui s'appelait « Rebâtir la confiance ». Et ça, ben, c'est arrivé un peu dans la foulée de MeToo, dans un contexte où on se rendait compte que les victimes d'agressions sexuelles et de violences sexuelles et conjugales se retrouvaient dans un système
qui n'était pas adapté.
Qui n'était pas adapté, qui les accompagnait mal. On a eu tellement de témoignages dans les dernières années de comment... En fait, beaucoup de femmes disaient « c'est comme si je revivais une deuxième fois
un trauma. » Je me suis fait arouetter, je me suis fait challenger à des moments où je ne m'attendais pas à ça.
Pour les victimes.
Et en plus, c'est sur difficulté à avoir des condamnations, même quand c'est assez évident aux yeux de tout le monde qu'il s'est passé quelque chose de pas correct. Il fallait comme, pour reprendre les termes de Léa Clermont-Dion, être la victime parfaite pour réussir finalement à aller chercher une condamnation.
Ce qui poussait beaucoup de victimes à ne pas, ne pas aller porter plainte.
Non,
là.
Tu dis, je vais vivre un calvaire.
Puis je comprends.
Donc, je vais me soigner, puis je vais essayer de passer à travers autrement. Puis tout ça fait en sorte, évidemment, d'entretenir la culture du viol quand il y a de l'impunité. Donc, ces tribunaux spécialisés, ben c'est des juges et des gens qui vont accompagner les victimes d'une manière qui est beaucoup plus adaptée et qui comprend c'est quoi le processus d'une victime. Tu sais, on entend ça des fois. Pourquoi ça y a pris 5 ans avant de dénoncer? Bien, si tu comprends un peu comment ça fonctionne là, dans la tête d'une victime puis le processus à travers lequel tu passes quand ça t'arrive, bien, t'en poses pas des questions comme ça. Puis tu te fais pas remettre ça sur le nez pendant un procès parce que les gens sont sensibilisés à comment ça peut se passer du point de vue de la victime. Donc, ces tribunaux-là, bien, il y a le dernier qui a été annoncé à Longueuil. C'est très... Je dis le dernier, il pourrait avoir d'autres choses. Là. C'est juste que là, toutes les régions en ont un. Et pourquoi on a terminé par Longueuil? Bien, la mairesse de Longueuil, c'est une personne qui a vécu non seulement une agression sexuelle, mais dont l'agresseur, comme tu disais un peu plus tôt, a été condamné. C'est l'ancien député Harold Lebel, et c'est une cause qui a été médiatisée, qui fait l'objet d'un documentaire aussi.
D'ailleurs, ce documentaire-là, pour l'avoir vu, je vous le conseille fortement, Témoin CF, où on relate cette histoire-là. Ça pogne au cœur. Puis si vous n'avez pas de proches, heureusement en passant, qui ont vécu ce genre de traumatisme-là, je pense que c'est une belle façon de s'éduquer sur le processus. Et Catherine Fournier continue de prendre la parole sur tous ces enjeux-là, sur les réseaux sociaux, entre autres. Et maintenant que toutes les régions ont leur tribunal spécialisé, elle apporte une question importante. Les procès devant jury, est-ce qu'ils ont vraiment leur place dans les causes d'agression sexuelle? Je trouve ça super intéressant. Et on la reçoit aujourd'hui. Elle est au téléphone avec nous. Catherine, salut.
Oui, bonjour.
Tu m'entends bien?
Oui, je vous entends très bien.
Génial.
Merci.
J'ai envie de te demander pour commencer, l'annonce du dernier tribunal spécialisé, maintenant que toutes les régions ont leur tribunal, qu'est-ce que ça change de ton point de vue pour les victimes concrètement?
La plus grande différence, le plus grand bénéfice pour les personnes victimes, c'est vraiment l'accompagnement qui est maintenant bonifié. C'est-à-dire que grâce à l'instauration des tribunaux spécialisés, là, on s'assure d'une trajectoire unique, donc du fait que la personne victime va avoir une seule personne intervenante du CAVAC, là, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels qui va l'accompagner tout au long du processus, les mêmes procureurs au dossier, les mêmes policiers également. Donc, on le sait, là, les procédures judiciaires peuvent parfois s'étirer sur de nombreuses années. Donc, de pouvoir compter sur des gens avec qui on peut développer une relation de confiance qui deviennent vraiment des piliers importants pour les personnes victimes, je crois que c'est l'un des plus grands bénéfices qu'on va pouvoir obtenir là, des suites de l'instauration de ces tribunaux spécialisés. Mais ça va plus loin. Je parlais des délais. Bien maintenant, on aura une chambre consacrée là, dans chacun des districts judiciaires, des palais de justice, uniquement au traitement des dossiers là, en matière de violence conjugale et sexuelle. Donc, ça risque quand même d'accélérer le rythme de traitement des dossiers. Donc, ça, c'est une bonne chose. Puis, finalement, on parle de formation des juges. On le sait, là, malheureusement, certains juges ont eu des propos assez particuliers dans les dernières années là, qui ont été médiatisés dans les causes d'agression sexuelle. Puis ça pose toujours des questions dans le public avec raison, à savoir quel type de formation les juges reçoivent.
C'est
maintenant.
Formalise.
Effectivement, tous les nouveaux juges, tous les juges également là, qui... je connais pas les fins détails, mais les juges qui vont traiter ces dossiers-là vont avoir une formation spécialisée. Là, ça a commencé à être donné là, du côté. Je pense que les juges en poste, c'est la magistrature. Puis les nouveaux juges, c'est vraiment le gouvernement du Québec qui est responsable là, d'offrir la formation. Donc plusieurs avancées là, qui découlent des tribunaux spécialisés. Puis je tiens à mentionner que les tribunaux spécialisés, évidemment, ont été instaurés sous le leadership du ministre de la Justice, Jean-Jacques Barrette, mais que ça découle d'une initiative transpartisane. Donc, qui inclut toutes les formations politiques à l'Assemblée nationale. Puis ça démontre encore une fois quand les partis se posent au-delà des lignes partisanes puis travaillent ensemble, on peut vraiment avoir des avancées très importantes pour le Québec.
Puis de façon personnelle, Catherine, d'où t'es venue l'idée de lancer cette question-là sur le procès devant jury quand on est en cause d'agression sexuelle? Ça te trottait-tu en tête depuis longtemps?
Oui, vraiment. En fait, il faut savoir, là, vous l'avez mentionné avant le début de l'entrevue, mais moi, je suis passée à travers un processus judiciaire. C'est une dénonciation que j'ai faite. Bon, j'ai porté plainte. Et en droit canadien, c'est la personne accusée qui a le droit de choisir si elle fait un procès devant juge seul ou un procès devant jury. Faut dire que c'est plutôt rare dans les causes d'agression sexuelle, mais puisque c'est considéré comme un crime grave, donc qui pourrait être passible jusqu'à 10 ans de prison, à ce moment-là,